France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, c'est l'heure de l'apéro, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous écoutiez. Et je reçois aujourd'hui le sociologue Marwan Mohamed, qui est spécialiste de la délinquance et qui a un parcours très singulier, qui part du décrochage scolaire absolu à chercheur au CNRS. C'est la remontada, quoi. Le voilà. Bonjour Marwan Mohamed. Bienvenue. Vous êtes grand.
Bah ouais, un peu.
François aussi un grand sociologue qui va venir s'installer dans mon bureau.
Allez, partons.
La sociologie du bistrot, ça s'étudie aussi, j'imagine. Ah, est-ce qu'il y a des collègues au CNRS qui étudient ça ou pas?
Sûrement, mais le bistrot, c'est comme les voitures de taxi. C'est des lieux où il faut aller quand on veut découvrir une ville.
C'est un peu comme pour les journalistes.
C'est ça.
Ouais. Venez, on va s'asseoir, allez. On va discuter.
France Inter. Bistroscopie. Charline Vanhoenacker.
Alors Marwan, vous êtes docteur en sociologie, chercheur au CNRS, spécialiste de la délinquance. Et on peut résumer donc votre parcours, en quelques mots, du décrochage scolaire au CNRS. Waouh.
C'est factuel. Il y a d'autres choses à côté, mais c'est factuel.
Vous étiez nul à l'école. Oui. Mais nul. Hein. C'est-à-dire que vous avez raté le brevet des collèges, raté le BEP. Heureusement, vous avez le BAFA. J'ajoute à cela, vos parents sont immigrés marocains. Vous avez grandi dans une loge de concierge à Paris, mais déjà des conditions pas forcément évidentes. Puis, dans une cité du Val-de-Marne. Et voilà pourquoi votre livre s'intitule « C'était pas gagné ». Ça, c'était la phrase de votre mère quand elle découvrait vos bulletins scolaires. « C'est pas gagné ».
C'est une phrase qu'elle dit beaucoup en ce moment. Elle dit ça plutôt récemment, une fois que je me suis installé comme chercheur. Il y a pas mal de gens qui connaissent la famille, qui connaissent un peu l'histoire, et elle leur dit, quand ils viennent la voir, elle dit quand même, Marwan, elle revient de loin, etc. Et puis elle a souvent cette phrase-là, en levant les sourcils, en soupirant fortement, ah, c'était pas gagné, ça veut dire j'en ai traversé des galères avec lui.
Ah ok, oui, parce que maintenant c'est au passé, c'était pas gagné.
C'est au passé, ouais. Ouais.
Quand elle découvrait votre bulletin de notes d'ailleurs, ah ben bah voilà, c'est un peu la réaction de votre mère, là. Elle a lâché une assiette.
Voilà, on a tout résumé.
Elle poussait un cri, non? C'est ça ce qu'elle
disait? Elle criait pas, non, elle s'appuyait avec les poings sur les joues. Ouais. Comme ça, elle s'écrasait les joues, elle se faisait mal. Hein. Et elle criait un mot que les Marocains connaissent bien, qui est « Willy, Willy, Willy », ça veut dire, pour le dire très rapidement, « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ».
Et vous nous proposez donc aujourd'hui, « C'était pas gagné », de l'échec scolaire au CNRS, histoire d'une remontada, car vous aimez les métaphores footballistiques, Marwan Mohamed, c'est paru au Seuil, et c'est ce que vous appelez une socio-autobiographie.
C'est juste que j'ai utilisé les outils de la sociologie pour éclairer des moments clés de la trajectoire que j'essaie d'expliquer dans ce bouquin-là. Mmh. Et vraiment, ce bouquin, l'objectif, c'est d'expliquer par quoi on passe pour passer de l'échec scolaire, pas de brevet, pas de BEP, puis on s'arrête pendant 4 ans et demi, 5 ans, on cesse toute scolarité pendant des années. Et comment est-ce qu'on se raccroche, et puis finalement, on apprend, on progresse au point de faire carrière comme sociologue. Donc c'est vraiment ce chemin-là que j'ai voulu raconter, en utilisant les outils de la sociologie, mais en fait, il faut savoir qu'à la base, c'est un exercice qu'on m'a demandé. Ce n'était pas un projet. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais écrire sur moi, voilà, et je vais utiliser les outils de la sociologie.
C'est une tendance dans l'histoire et la sociologie,
oui,
l'ego-histoire, tout ça.
Je trouve ça très très bien que les chercheurs se racontent. Moi, j'aime beaucoup lire ces récits-là. Mais moi, en fait, c'était une obligation pour obtenir un diplôme qui s'appelle l'habilitation à diriger les recherches. C'est pour pouvoir diriger les thèses. Mmh. Et ensuite, tout le monde, notamment les membres de mon jury qui m'ont décerné ce diplôme, m'ont dit qu'il faut absolument le publier. Et même en l'écrivant, moi, franchement, d'écrire ce mémoire, la vérité, c'est que je n'avais pas envie de l'écrire. Ça me saoulait. Je n'ai jamais compris l'utilité de l'exercice. La vérité, c'est ça.
Le coq est revenu en vous.
Ouais. Non, mais c'est vrai. Et à un moment donné, j'avais besoin de me motiver un peu quand j'écrivais. Je me suis dit, bon, j'écris 80 pages comme ça, pour 4 personnes, 5 personnes, les membres de mon jury, ça me contrariait un peu, et je me suis dit, mais à quoi il pourrait servir à part ça? Et c'est là où j'ai changé de forme d'écriture, que j'ai repensé le mémoire, et mon garant, Nicolas Duvoux, il m'a quand même bien poussé à ça, il m'a dit, vas-y, t'es libre, faut que ce soit scientifique, mais t'es quand même libre sur le fond et la forme, et là, fallait pas me dire ça. Et je suis assez frappé de la réception de ce livre-là, je reçois tous les jours des témoignages de personnes qui, parfois, ont des positions assez folles, d'autres qui ont des positions plus intermédiaires, mais pour qui aussi c'était pas gagné. Donc, au-delà du CNRS, qui est une institution à part, très élitiste, etc., je pense que le « c'était pas gagné », ça parle à beaucoup de gens.
Marwan Mohamed, merci. Sociologue, chercheur au CNRS, alors que vos modèles, c'est Chris Waddle, le footballeur, et Eric Cantona.
Oui, ouais, moi, gamin, je suis très, très gamin de milieu populaire, qui adore le foot, je veux devenir footballeur professionnel. J'y suis pas parvenu parce que j'avais absolument pas le niveau. pas eu de blessure, pas d'excuses comme ça. Mais c'est vrai que c'était ça mes modèles, c'est-à-dire de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir briller et de transmettre des émotions, parce que c'est surtout ça que j'aime dans le foot, ça réunit les gens, alors pour le meilleur très souvent, pour le pire parfois, mais c'est vraiment ça qui comptait pour moi.
Ouais. Mais donc, enfant, vous vous dites, j'ai pas le niveau pour le foot, l'école ça va pas trop, ça a pas dû être super évident pour vous
Non, et puis bon, j'ai passé 13 ans à Paris, mais à partir de mes 13 ans, je vais en banlieue parisienne, dans une grande cité. Et ça, ça change la donne quand même.
À Villiers-sur-Marne.
À Villiers-sur-Marne, dans la cité des Hautes-Nous. Parce que d'être enfant de gamin de classe populaire dans le centre de Paris, c'est une expérience particulière, mais dans un milieu où on est très minoritaire. D'être gamin de milieu populaire dans un milieu où on est très majoritaire, c'est pas la même expérience. Et même dans l'espace public, il se passe pas la même chose. On n'est pas attiré et on n'est pas soumis aux mêmes injonctions. Donc on reste gamin de classe populaire, mais ce n'est pas la même vie.
C'est quoi la différence ?
Déjà,
vous êtes dans le deuxième arrondissement, ouais. Galerie Vivienne, ouais. Concierge, voilà. Donc il y a la loge qui fait 7 mètres carrés et une petite chambre en haut.
Pas de douche.
Mais c'est le Paris super bourgeois.
C'est le Paris magnifique même.
Ouais. Et donc après, vous arrivez à Villiers-sur-Marne. Et donc quand on est issu de milieu populaire et qu'on... On a du mal à s'imaginer le changement que ça a pu être.
Il est à tous les niveaux. D'abord, on arrive dans un village. C'est un village urbain, mais c'est un village. On passe de ses quelques copains au quartier et ses quelques voisins, parce que la vie est quand même assez individualiste, anonyme, chacun chez soi, chacun vit sa vie, à une vie de quartier où on vit en communauté. On est des dizaines dehors, on est des dizaines à sortir ensemble, à jouer. Je veux dire, c'est quand même une vie humainement très, très dense.
Donc c'est plus chouette.
Très intense. Sur ce point-là, c'est plus chouette. C'est beaucoup plus chouette. Tout est amplifié au quartier. Les solidarités sont amplifiées, l'entraide est amplifiée, mais également les transgressions et les déviances. Et moi, en fait, j'arrive aux Hautes-Nous, à la cité, au moment où je décroche complètement à l'école, mais y compris en termes de présence, d'assiduité. Le couple, mes parents, ça commence à devenir très compliqué. Je perds énormément confiance en moi. C'est dans ce contexte-là, et je prends place dans la rue, et j'arrive dans un lycée professionnel, mais qui est un des pires du Val-de-Marne. Donc je suis exposé à des comportements, à la logique de bande et à des fortes injonctions, quoi, des formes d'obligation d'être avec les autres, avec une rue quand même qui est structurée par un masculinisme assez hégémonique. Être garçon, c'est quand même être garçon qui arrive à s'imposer dans des rapports de force, l'usage de la violence, tout ça prend une place quand même considérable. Et moi, je glisse progressivement, ça me prend. Et la fin de scolarité, là, sans le BEP, c'est le pire moment, parce que là, j'ai pas de diplôme, j'ai besoin de respectabilité comme tout le monde, mais ça peut pas venir par l'école, donc pas par les parents, parce que les parents sont très fâchés de mon parcours scolaire. Du coup, comment je deviens quelqu'un ? Aux yeux de qui j'ai l'impression d'avoir une valeur ? C'est ça, mon expérience d'ado, et en fait, la rue offre ça.
C'est-à-dire qu'il y a un moment, vous êtes donc en décrochage scolaire, il y a une conseillère qui vous oriente vers la chaudronnerie. Là, vous faites tout un film en se disant « Mon Dieu, je ne veux pas travailler dans Astérix ». Ça, c'est l'image que vous avez, c'est le druide.
Ben oui, parce qu'elle me propose un BEP chaudronnerie. Ouais. Et moi, je ne savais même pas que ça existait. Et moi, la première image, je suis gamin, quand on dit chaudronnerie, le mot qui me vient en tête, c'est chaudron. Et pour moi, le chaudron, c'est Panoramix, c'est-à-dire la fabrication, la préparation de la potion magique pour botter le derrière des Romains. Ouais. Et donc, moi, je suis extrêmement surpris qu'elle me propose ça, parce que j'ai le sentiment qu'elle me demande d'aller fabriquer des chaudrons. Du coup, je la regarde, j'ai dit, mais qui achète encore des chaudrons aujourd'hui, madame ?
Vous n'aviez pas vu l'utilité de la chose, parce que chaudronnier, c'est important.
Ah ben, c'est très important, et puis la chaudronnerie, c'est un des métiers essentiels de l'industrie, en fait. Et puis, ça paye bien, et puis il y a des débouchés. Je pense que c'est comme ça, elle pense en termes de débouchés et de métiers, mais moi, je pense Astérix et Obélix, et puis surtout, moi, je veux dire, je ne suis pas dans une logique de me projeter vers une carrière, je suis vraiment en logique de déclin.
Et donc, vous l'expliquez, Vous avez le choix presque entre deux filières à ce moment-là. C'est soit deal de cannabis dans la cité, vous auriez pu glisser. Vous choisissez de passer le BAFA et le diplôme d'animateur et de devenir animateur de quartier. Il y a une jeune fille plutôt de milieu bourgeois pavillonnaire qui est aussi animatrice. J'imagine qu'heureusement, il y a un peu de mixité à ce niveau-là. Et elle vous met entre les mains un livre qui est quand même une somme. C'est « La misère du monde » du célèbre sociologue Pierre Bourdieu. Et là, c'est genre l'illumination de Rousseau, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe quand elle vous met le livre dans les mains ? Vous allez quand même l'ouvrir et quelque chose va se déclencher là d'essentiel.
Alors, c'était pas l'animation, on le dit, il y avait d'autres petites alternatives, mais très précaires.
Ouais. Vous avez fait plein de petits boulots. Vous avez travaillé au McDo, etc.
J'ai fait plein de petits boulots, et c'est ça la vie de beaucoup de jeunes des quartiers qui sont en échec scolaire. C'est d'abord des petits travailleurs, travailleurs précaires, qui font plein de petits boulots, qui essayent plein de petits business pour essayer de s'en sortir.
Vous voulez dire que j'ai caricaturé un petit peu ? C'est
non,
pas mon genre.
C'était un peu binaire, on va dire. C'était un peu binaire.
Non, non, mais vous l'écrivez à un moment. J'aurais pu glisser là-dedans.
Mais à un moment donné, oui.
Vous l'écrivez, je ne l'ai pas inventé quand même.
Non, non, vous avez raison, c'est plus tard. C'est plus tard, où, moment où c'est vraiment bancal, où mes parents ne sont plus là. Où mes parents ne sont plus là, ils sont rentrés au Maroc pour essayer de relancer leur couple, etc. C'est là que des gens me repèrent et se disent, celui-là, il a un appart quasiment pour lui tout seul, il est en galère de thunes. Donc c'est vraiment des physios. Et c'est là où on me propose de me pousser de la marchandise, de me l'avancer, de m'apprendre à couper, à vendre et à utiliser mes réseaux pour ça. Du coup, là, l'éducation familiale, l'éducation morale, tout ce que j'ai intériorisé, mais y compris l'action d'autres parents du quartier. Il y a plein de mamans comme ça qui prennent un peu le relais, qui savent que la mienne n'est pas là. Il y a des grands qui sont très bienveillants, il y a les animateurs de la maison de quartier. Donc il y a quand même un tissu autour qui me resserre. Et ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est eux qui me mettent dans l'animation. Ils me proposent le BAFA et c'est du BAFA en fait que je découvre qu'il y a une équivalence de bac et donc je m'inscris à l'équivalence de bac. Ensuite, pendant que je passe mon DAE, j'ai besoin d'apprendre à devenir étudiant parce que c'est un métier étudiant.
Faut apprendre à apprendre.
Faut apprendre. Et là, c'est Alice, une autre animatrice, mais plutôt classe moyenne de la ville, qui elle est étudiante en histoire. Et donc déjà, elle m'aide à apprendre à apprendre. C'est ça d'abord. Et puis, Elle a feuilleté le bouquin La misère du monde de Bourdieu que ses parents ont acheté, qui sont plutôt à gauche, ses parents. Et elle me le tend, elle me dit, tu devrais lire ça. Et là, c'est vrai que ce livre-là de Bourdieu, le plus accessible de Bourdieu, hein, si on m'avait tendu la reproduction, les héritiers, c'était cuit, c'était clair que je fuyais la sociologie. Mais ce bouquin-là, d'une part, il me fait aimer la sociologie, qui me paraît une science accessible, claire, puissante. Mais en plus, il m'éclaire sur mon propre parcours. C'est-à-dire, OK, il y a des choses qui nous dépassent, il y a des déterminismes sociaux. Si on est autant dans la même situation dans ce quartier, c'est pas seulement parce que individuellement on n'a pas de mérite. Et du coup, moi déjà, ça me déculpabilise. Voilà, c'est le premier effet. Je souffre, je déculpabilise parce que j'avais vraiment le sentiment que j'étais bête. J'avais vraiment le sentiment que j'étais pas intelligent. Tout le monde nous dit, si on n'est pas bon à l'école, on est bête. On associe toujours l'intelligence et les compétences scolaires, ce qui est une erreur phénoménale et ce qui a des effets sur la psychologie, sur la perte de confiance, qui est terrible. Du coup, moi, je sors de ça. Ça me libère, ça m'allège, et comme ça m'allège, ça me donne aussi envie de rattraper, de compenser, d'étudier. En tout cas, ça me donne une motivation en me disant, si j'ai mon DAE, je vais faire la sociologie. Mm-hmm. Donc ça ouvre un peu une perspective.
Vous dites, quand on est en décrochage scolaire, on pense qu'on est bête si on ne réussit pas à l'école. Et vous, en tant que sociologue, et puis de votre expérience de vie aussi, vous remarquez que dans les quartiers, c'est les petits malins qui sont valorisés. Donc c'est pas forcément ceux qui ont des bonnes notes, c'est ceux qui... Ouais, qui filoutent, quoi.
Ouais. On a une expression...
C'est une compensation de tout ça, en fait.
Ouais, et c'est des compétences de communication qui sont valorisées. C'est la figure du caméléon. Ah, lui, c'est un caméléon. Elle, c'est une caméléone. Je sais pas si on pourrait le dire comme ça. Mais il y a la figure du caméléon. Le caméléon, dans le quartier, c'est celui qui peut naviguer dans différents espaces sociaux, qui a des compétences de communication pour naviguer partout et qui a des plans. Des plans pour des soirées, des plans pour du taf, des plans pour des business. Bref, il a une ouverture sur le monde que tout le monde n'a pas. Et du coup, finalement, l'animation, parce que ça permet une ouverture sociale, parce qu'il y a de la mixité parmi les animateurs, parce que je travaille avec des parents, d'autres milieux sociaux que le mien, etc. Il y a des ouvertures. Et ces ouvertures-là font que je deviens aussi une forme de caméléon et les choses s'accélèrent une fois que je rentre à l'université pour le DAE et que je vais étudier la sociologie à Toulouse.
Et ces caméléons et caméléones, qui sont un peu les boss dans le groupe les plus populaires, ils misent sur l'humour aussi ?
L'humour, si on se pose la question pourquoi est-ce qu'il y a autant d'humoristes qui viennent des quartiers populaires et qui sont très bons, il faut venir passer un petit peu de temps dans la rue. C'est-à-dire que l'humour, c'est une activité, c'est un hobby. Rire, c'est un hobby quotidien. C'est aussi un antidépresseur. C'est ce qui aussi permet d'amortir la dureté de la vie sociale. C'est ce qui permet de passer les épreuves les plus dures. C'est vraiment un élément déséquilibre de la vie sociale dans les classes populaires. Donc oui, c'est très bizarre, c'est à la fois très dur, mais il y a énormément d'humour. Et donc même des fois quand on vit des choses très graves, on en rigole très rapidement. C'est notre psychologie collective, c'est notre thérapie collective. Ça a été chaud, l'adrénaline montée, ça a été chaud pour nous. Et du coup, venez, on en rit. c'est la seule issue pour pouvoir sortir de la gravité du moment. Donc oui, l'humour est extrêmement important. Moi, je ne dis pas que j'ai beaucoup d'humour, je dis juste que l'humour est important dans ma vie.
Si, si, vous en avez un peu. Franchement, dans le bouquin, il y a pas mal de passages qui sont assez amusants, dont celui que vous avez évoqué sur les chaudrons. Pierre Bourdieu, est-ce que vous vous êtes un peu aussi identifié à lui ? Il est fils de facteur ?
Moi, ce qui fait que j'accroche avec Pierre Bourdieu, c'est d'abord la puissance analytique, la puissance théorique, la green analyse du monde social qui me parle, mais parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il est venu chercher sa sociologie dans mes tripes, donc forcément ça me parle, ça parle de mon histoire, de mon parcours. Mais politiquement, c'est aussi un sociologue qui est engagé, qui défend une société égalitaire, qui lutte pour la justice sociale, et donc il a toute une série de luttes comme ça, et puis c'est un intellectuel critique, et c'est vrai que ça me parle aussi parce que je suis un peu en colère. Voilà, je suis un peu en colère à cet âge-là. Je crois que je le suis toujours encore un petit peu.
Mais vous canalisez dans vos recherches.
Oui, alors ma recherche, j'essaie vraiment de tout neutraliser pour mes recherches. Moi, je deviens un glaçon pour mes recherches. J'ai appris à déconnecter ce que je renvoie, ma manière de travailler, de mes émotions. C'est-à-dire qu'en entretien, je peux entendre des choses extrêmement dures, soit des choses dures que les gens ont vécues, soit des choses qui m'indignent dans ce qui est dit, parfois des propos racistes tenus par des personnes avec qui je mets à l'entretien, mais moi, je considère tout comme normal. Donc je continue.
C'est-à-dire
à
que plutôt que de leur mettre une tarte, vous prenez des notes.
Non, je mets pas de tarte. Non, alors pour le coup, derrière, je peux être j'ai besoin d'en parler, de souffler, etc. Mais moi, je suis plutôt reconnaissant. Donc reconnaissant envers toutes les personnes qui m'aident à avancer dans mes recherches, même si c'est des personnes à qui je partage pas les opinions. Ils m'ont donné du temps, transmis un savoir. Ça suffit pour que je sois reconnaissant, même si je partage pas leurs opinions. Donc je suis plutôt très bienveillant. Et j'ai tendance à protéger les personnes qui m'aident à faire mon travail. Ouais. Ça, c'est dans le cadre de mon travail. Ouais. Après, politiquement, c'est autre chose. Ouais.
Et donc, c'est un exemple de réussite collective, votre parcours, Marwan Mohamed.
Oui, bien sûr. Ce que j'ai vraiment essayé de raconter, mais c'est très factuel, c'est que cette trajectoire-là, qui est improbable statistiquement, mais elle est intéressante à analyser dans le sens où j'essaie de ne pas oublier et de mettre en avant toutes les personnes qui ont eu un rôle dans cette trajectoire. Et vraiment, elles sont nombreuses. Et j'ai même tendance à dire qu'on a tendance à vite oublier les personnes qui nous ont fait la courte échelle, nous ont tendu la main, ouvert une petite porte, encouragé à un moment donné. On se souvient plus de ceux qui nous ont fait du mal, puis j'ai pas voulu leur donner d'espace. Et il y a énormément de personnes qui ont été là, des complices, des alliés du moment, des alliés circonstanciels, etc. Et ce parcours est impossible sans l'entraide et la solidarité. Il est impossible. Et quand je dis la solidarité, c'est l'initiative des personnes, mais c'est aussi les dispositifs de solidarité. C'est-à-dire tout ce qui relève des politiques sociales, des politiques publiques, notamment dans les quartiers populaires, et qui font qu'il y a une présence des acteurs, des professionnels, des associatifs, des bénévoles, tous ces corps intermédiaires qui sont absolument essentiels et qui font qu'il y a des jeunes qui découvrent une vocation, d'autres qui prennent confiance, d'autres qui ne chutent pas, d'autres qui se recentrent, d'autres qui se motivent, etc. Et on parle de phénomènes de masse, hein. C'est pas des petits parcours. On était plein à aller à la maison de quartier. Mmh. On était plein à aller au centre social. Et puis moi, ensuite, j'ai voulu rendre, donc dès 2001, je me suis engagé au niveau associatif. Donc j'ai créé une association, et dans mon association, et je suis encore engagé au niveau associatif aujourd'hui. Et pour moi, c'est absolument essentiel de faire vivre et de s'appuyer sur tous ces acteurs-là. Le problème, c'est que cette importance sociale des acteurs de terrain, elle est complètement négligée, et elle a tendance à être complètement oubliée par le politique au niveau national, par les décideurs. On part du principe que ça ne fonctionne pas parce que les problèmes demeurent. C'est ça le raisonnement. On a mis des choses, ça ne règle rien. Si ça ne règle rien, ça ne marche pas. Le problème, c'est que, mais depuis le départ, il n'y a rien qui est mis à la hauteur des besoins. Mais ce n'est pas parce qu'on ne met rien à la hauteur des besoins que ce qui existe n'a pas d'effet. Et le raisonnement est très mauvais à la base. Et en fait, comment évaluer ça? Comment prouver ça? Et quelque part, ce livre-là, c'est montrer quels ont pu être les effets, notamment par capillarité, direct et indirect, de tous ces dispositifs-là.
Le livre s'intitule « C'était pas gagné », Marwan Mohamed. Le sous-titre, c'est « De l'échec scolaire au CNRS, histoire d'une remontada ». C'est paru au Seuil. Vous avez travaillé aux États-Unis, et on va y venir parce qu'il y a du lourd. Mais d'abord, vous avez fait votre mémoire sur les bandes de jeunes, avec mention « Très bien ». Donc, vos professeurs vous engagent à poursuivre. Vous nous avez parlé de la question de la masculinité, de la virilité, de l'honneur. Votre terrain d'enquête pour le CNRS et votre terrain de vie, j'imagine que parfois ça a dû amener à des histoires un peu cocasses, non? Genre vous allez en prison et vous retrouvez
c'est
un
ça.
pote.
Ouais. Ah, c'est ça. Je pense que ça, c'est les histoires les plus douloureuses, c'est-à-dire de mener des recherches en détention et au sein de la détention, croiser des personnes avec lesquelles on a été au lycée. C'est mener des recherches en détention et de bénéficier de l'appui pour rencontrer des gens, de deux détenus qui sont de son propre quartier, dont un dont on s'est occupé dans le cadre associatif ou dans un cadre sportif. Je pourrais rajouter que quand on travaille sur la criminalité organisée, c'est ce que je fais aujourd'hui, les personnes que j'interroge en détention, c'est plutôt des hauts profils et ils vont pas parler à n'importe qui, n'importe comment. Et donc ils ont tendance, un peu comme le font les policiers, à se renseigner pour savoir à qui ils ont affaire. Et donc, je me suis rendu compte que des fois, des groupes de détenus où les gens avaient dit oui pour me rencontrer, les premiers rendez-vous traînaient un peu à se mettre en œuvre parce qu'il leur fallait du temps pour aller se renseigner et de remonter à quelqu'un qui connaît quelqu'un pour savoir si j'avais des casseroles. Et des casseroles pour la rue, c'est surtout d'avoir collaboré avec la police.
Comment vous faites pour les convaincre que vous n'êtes pas une balance et que ce que vous notez restera confidentiel ?
Alors, déjà, je ne peux pas les convaincre, c'est eux qui vont vérifier. Et puis des fois, je suis coopté parce qu'il y a des intermédiaires qui se portent garant, qui ont confiance en moi, en qui j'ai confiance, et c'est ça qui permet que ces recherches se fassent. Et une fois qu'eux ont confiance, ils en parlent à d'autres, et c'est comme ça, par effet boule de neige, que je construis mes terrains. Et puis surtout, j'ai un dictaphone qui est crypté, donc dès que j'enregistre, c'est immédiatement chiffré. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Ensuite, mes entretiens, avant de les retranscrire, tout ça est dans un disque dur chiffré, mais qui n'est pas chez moi, qui est quelque part. Et une fois que j'ai retranscrit, j'efface les bandes et j'anonymise toutes les informations. Et en plus de ça, quand je demande, je préfère aller voir des personnes condamnées définitivement, parce qu'on peut parler, ils n'ont plus rien à perdre par rapport à ce pourquoi ils ont été condamnés, ils sont beaucoup plus libres pour parler. Quand je discute avec des personnes qui sont prévenues, je ne parle pas de leurs affaires. Et je les censure même, quand ils veulent venir vers leurs affaires. C'est moi qui les censure, en leur disant, c'est pas la peine. Donc moi, ce qui m'intéresse, en fait, n'intéresse pas forcément les policiers. Ce qui intéresse les policiers, m'intéresse pas moi. Les policiers veulent avoir des preuves matérielles pour faire enquête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre leur histoire, leur expérience, leur engagement dans les activités délinquantes et leur vision des espaces de la délinquance. C'est ça qui m'intéresse. Du coup, globalement, je m'en sors plutôt bien comme ça et je suis très transparent. Je suis très transparent. Puis maintenant, ça fait plus de 10 ans que je travaille là-dessus. S'il y avait eu un souci, ça se saurait.
Vous dégagez les mécaniques, les dynamiques de la délinquance, et en particulier à ce moment du narcotrafic. Il y a un autre terrain d'étude chez vous, vers les années 2018, vous vous installez à New York.
Oui, je m'installe à New York. Mais déjà, sur le mot narcotrafic,
ouais.
Moi, je n'utilise pas le préfixe narco.
Ah, ok.
Ouais.
Moi.
Je ne l'utilise pas parce que...
Trafic de drogue,
comment on parle de trafic de drogue.
Ok.
Ouais. Parce que narcotrafic, quand on dit narco, on pense à quoi ? À l'Amérique latine, au cartel.
Mm-hmm.
Et donc, quand on utilise le préfixe narco, on contribue, selon moi, à la mexicanisation des imaginaires.
Uh-huh.
À la cartélisation des imaginaires. Et ça, ça a plusieurs effets. D'une part,
on a entendu dans la bouche de nos ministres de l'Intérieur récemment.
Eux, ils ont intérêt à le faire parce qu'ils sont dans une campagne ou bien ils sont dans la valorisation de leurs actions. Des fois, les professionnels de la justice et la police, ils ont intérêt à le faire, mais parce qu'ils ont besoin de moyens, parce qu'ils veulent défendre et valoriser leurs actions. Ça, c'est leur rationalité à eux. Mais je pense que sociologues, journalistes, citoyens, etc., on devrait prendre plus de recul par rapport à cette notion-là parce que l'un des effets, c'est de donner de la force aux organisations en question. Bah oui.
Donc on parle de trafic de drogue.
Trafic de stupéfiants, c'est ce que c'est. En fait.
Ouais.
C'est un secteur d'activité illégal. Il y a une division du travail, il y a de la logistique, de la livraison. Enfin, moi j'ai une approche très organisationnelle de ce que c'est. Je suspends les mots trop spectaculaires et je suspends tout jugement moral ou de vision pénale des choses. Ouais. Oui. Donc je vais à New York pour ça, pour avoir une comparaison France-États-Unis, notamment pour faire des entretiens en détention avec des figures de la distribution du trafic de drogue aux États-Unis. Et donc je fais les entretiens à Los Angeles, quelques-uns, mais surtout dans l'État de New York. Et puis le calendrier judiciaire me fait un petit cadeau, parce que j'habitais dans la rue du tribunal à Brooklyn, Court Street, et au bout de ma rue, il y a le tribunal fédéral. Et pendant 3 mois commence le procès d'El Chapo, le fondateur du cartel de Sinaloa. Et là, c'était assez bien en tant que sociologue, c'est qu'on pouvait... observer, analyser, comprendre, alors toujours sur un angle policier, judiciaire, mais comprendre le trafic de stupéfiants, le trafic de drogue, mais à une échelle industrielle, quoi, une échelle globale.
Et là, c'est votre terrain d'observation en ce moment et d'études, c'est Marseille. Qu'est-ce que vous pouvez déjà dire de l'état de vos recherches à Marseille où c'est vraiment trop neuf?
Je ne peux rien dire du tout parce que je suis encore dans une phase exploratoire, on met les choses en place. Voilà, le point de départ, ce qui m'a frappé à Marseille, c'est même pas le trafic en lui-même, c'est les violences liées au trafic et c'est le rajeunissement rapide des auteurs et des victimes de violences. C'est ça le premier fil que j'ai envie de tirer. Mais pour comprendre la place des violences dans les économies criminelles, il faut comprendre les économies criminelles. J'essaie de comprendre vraiment la dynamique des violences, ce qu'on appelle des règlements de compte, en regardant 20 années d'évolution et en essayant d'interroger tous les acteurs des différentes périodes. Il se passe des choses à Marseille qu'on ne retrouve pas dans d'autres départements. Donc c'est très large pour le moment, mais on espère avoir quelques éléments de réponse après. Ouais.
Est-ce que vous êtes déjà tombé dans des embrouilles ou vous avez déjà eu les jetons ?
Pas dans les embrouilles, mais j'ai déjà eu peur, oui. Oui, j'ai eu peur. Et la peur, ça fait partie du boulot. Il faut apprendre à la gérer. J'en ai écrit un article méthodologique. Comment on fait de la recherche avec la peur? Comment on gère la peur?
Peut être risqué d'être chercheur au CNRS, quoi.
Oui, bien sûr. Ouais. Il y a des sujets pour lesquels c'est risqué, mais c'est pas que ces sujets-là. Hein. Mais je me suis retrouvé dans des situations un peu compliquées. Pour en citer une, je faisais de l'observation de terrain. Et pour faire du travail sur le terrain, il faut négocier avec celui qui gère le terrain. Terrain de stup. Donc, par plein de contacts, j'ai négocié, il a eu les garanties, il a eu l'accord de ses supérieurs, donc il m'a laissé faire mon terrain. Moi, j'étais venu en RER, et un jour, il me dit « si tu veux, je te dépose à la gare, elle était loin, il fallait prendre le bus. Moi, je trouve ça sympa, et puis il se passe plein de choses dans les discussions en voiture. » Donc je dis oui. Et on va vers la gare, et dès qu'on sort de la cité, il y a une compagnie de CRS qui fait des contrôles systématiques. Au début, je percute pas, et je vois que lui, il s'inquiète. Il commence à transpirer, à s'agiter un petit peu... Il commence à m'inquiéter et je le vois, il est hyper agité, je lui dis ça va et tout. Et puis il dit cette phrase, j'espère qu'ils ont vidé la voiture. Voilà. Et c'est là que je fais les liens, etc. Et je me dis, ah ouais, non, c'est pas la meilleure configuration pour moi.
Ouais, parce que vous étiez embarqué là.
Oui.
Embarqué dans
l'affaire.
S'il
y avait de la marchandise, on était embarqué. Et moi, à minima, comme poursuivi pour complicité, trafic, etc. Alors bien sûr, je peux justifier du fait que je suis sociologue, je peux justifier du fait que je travaille là-dessus, que je travaille sur le CNRS, mais je vois bien le parquetier qui reçoit le coup de fil des OPJ qui disent, voilà, alors il y a un monsieur qui s'appelle Marwan Mohamed et qui se prétend sociologue et bon, il va falloir qu'il fasse un arbitrage là. Pas sûr que les biais ne jouent pas à ce moment-là, bon. Donc ça pouvait être...
Faut dire que votre barbe, ça n'aide pas non plus. Hein.
Si, ça m'aide, au contraire.
C'est vrai.
Ça m'aide beaucoup.
C'est un outil ?
Non, c'est...
C'est vraiment esthétique.
Non, pour moi, c'est vraiment... elle est là.
Mais elle peut être politique, vous savez bien.
Elle peut l'être, mais ça m'échappe. Moi, je dis souvent, je suis hipster pour les salafistes, je suis salafiste pour les islamophobes. Chacun projette ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Ouais. Voilà. Tout ce que je sais, c'est que j'ai interdiction de l'enlever par ma femme et mes enfants. Pour des raisons esthétiques.
D'accord. Vous bossez un petit peu avec les ministères de la justice ou de l'intérieur
Bien sûr, bien sûr. Mes recherches actuelles que je mène à Marseille, elles sont financées par l'État. Hein. Il y a une recherche sur les mineurs qui est financée par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a une recherche plutôt sur les majeurs qui est financée par la MILDECA, qui est une mission interministérielle qui dépend du Premier ministre, validée par les différentes directions. Je forme ou je fais beaucoup d'interventions dans les services judiciaires, dans les services pénitentiaires. Et là, ces derniers temps, de plus en plus auprès de policiers. Et puis même pour ma recherche, je dois interroger magistrats spécialisés, policiers spécialisés, cadres et des gens qui peuvent être au niveau des directions et de l'administration centrale. Donc bien sûr, bien sûr.
La sociologie, c'est un enjeu démocratique, alors ?
Ouais, c'est bien de le poser comme ça. C'est très bien de le poser comme ça. Parce qu'en fait, le savoir libre, la recherche libre et autonome, elle est directement liée au bon fonctionnement et à la bonne santé démocratique des pays. Pourquoi ? Mais parce que ce soit les décideurs et que ce soit les citoyens, ils doivent pouvoir exercer leur citoyenneté en étant éclairés par la recherche publique. Donc, le niveau d'autonomie, le niveau de liberté des sciences, et notamment des sciences humaines et sociales, est directement lié à la qualité de nos démocraties. Et c'est d'ailleurs pas un hasard que dès qu'on a un tournant fasciste, néo-fasciste, sécurité dictatoriale, immédiatement, dès que les libertés se réduisent, on s'en prend aux sciences humaines et sociales. Et on s'en prend à la science de manière générale. Regardons Trump et toutes les recherches sur le genre, sur le racisme, etc. Regardons le Japon, regardons la Hongrie et regardons la France. Toutes les attaques, toutes les accusations d'islamo-gauchisme, de wokisme, etc., qui visent l'université de la part de décideurs, de ministres qui se disent démocrates et progressistes, c'est extrêmement problématique. Donc oui, je pense qu'il faut défendre l'autonomie de la recherche parce que c'est une manière de défendre la démocratie.
islamo-gauchiste, je sais que vous êtes attaché au mot, vous m'avez repris tout à l'heure sur narcotrafic, trafic de stupéfiants. Vous avez travaillé sur l'islamophobie.
Oui.
Est-ce que c'est une notion aussi qui évolue dans le temps? Est-ce qu'elle est instrumentalisée, donc elle change de définition?
Pour moi, c'est même pas un concept. Hein. C'est pas un concept, c'est pas une notion descriptive. C'est une matraque. Il y a des mots matraque. Il y a des mots flashball qui visent à réprimer, qui visent à faire taire, qui visent à empêcher toute mobilisation sociale. Moi, je les appelle vraiment les mots flashball, quoi. Qui visent à empêcher aussi des solidarités. Je vois leur usage, je vois leur évolution. C'est la même filiation que la création de mots comme judéo-bolchevisme à une autre époque où l'antisémitisme et l'anticommunisme étaient absolument au cœur du débat public, même si ça n'a pas disparu.
Ça devient des mots flashball parce qu'ils sont instrumentalisés, parce qu'au départ, c'est un mot, donc il a une signification, j'imagine.
Non, il n'a jamais été forgé par des intellectuels et des chercheurs qui sont sérieux, en fait, qui visent à décrire avec des moyens scientifiques le fonctionnement de la société. Tout de suite, ces mots-là ont été des mots polémiques. C'est des mots qui sont créés, mais il y en a plein d'autres, hein, wokisme, etc. C'est des néologismes qui servent à dénigrer, à empêcher des solidarités, à couper toute forme de solidarité entre les milieux populaires et les partis, les organisations politiques classiques. Ça sert à ça, ces mots-là, à disqualifier, à construire le problème musulman. On connaît cet usage-là, il n'est pas nouveau, il n'est pas original en tant que tel. Et dans 2 mois, 3 mois, on aura d'autres mots. Hein. Il y a une usine. Hein. Dès que des mots sont un peu périmés, ils en sortent d'autres avec les mêmes fonctions.
Marwan Mohamed, on a parlé de votre parcours en première partie d'émission et on arrive à la fin de l'entretien. Avec votre livre « C'était pas gagné », paru au Seuil, où vous racontez votre parcours du décrochage scolaire au CNRS. Je me demandais si vos enfants ne réussissent pas à l'école, vous leur dites quoi ?
Bah, c'est une bonne question, mais on en discute pas mal. Bon, ils réussissent pas mal à l'école.
Ouais.
Ils réussissent pas mal à l'école, mais en même temps, ils sont bien dotés. Hein. Ils ont des ressources que moi, j'ai pas eues.
Ils bénéficient de votre capital culturel ?
Oui, de celui de leur maman aussi.
Ouais, de leur maman.
Celui de leur maman aussi, qui est des oncles, des tantes, ouais. de toute la petite communauté qui les fait grandir, des amis de New York, avec qui on a gardé des liens.
D'où El Chapeau, non ?
Non, pas forcément. El Chapeau, ils bossent beaucoup. Ils bossent énormément. Et c'est pour ça qu'ils réussissent, il n'y a pas de surprise.
Et est-ce que le soir, vous leur lisez Pierre Bourdieu ?
Non, 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 ça fait longtemps que je leur lis plus de livres, mais je leur en aurais lu pendant très longtemps. Par contre, à table, on discute société, sociologie. Donc je pense qu'ils ont quand même une petite culture sociologique malgré eux. On essaie de les rendre les plus ouverts possibles et après, ils font leur chemin.
La relève est là. Merci Marwan Mohamed, docteur en sociologie, et je vous rends à votre terrain d'études à Marseille sur le trafic de stupéfiants.
Merci.
Ainsi s'achève Bistroscopie, dont vous pouvez écouter les précédents épisodes sur l'application Radio France. Abonnez-vous au podcast. Merci à Ophélie Vivier, chargée de programme, Stéphane Ronxin à la réalisation, Loïc Duros à la prise de son et Fabrice Desmas au mixage. Merci aussi à Christine Anzano à la documentation.